Bleibgesinnt,
la dame qui chante.
Bleibgesinnt, c'est une expression yiddish. Littéralement, ça veut dire « reste en bonne santé ». Une sorte de take-care version ashkénaze. Bleibgesinnt, c'est comme ça qu'Isabeau disait au revoir, sûrement un héritage de famille. Moi, c'est Anna. Isabeau, c'était ma mère. Enfin, à l'époque, avant d'être chanteuse de cabaret et figure montmartroise, elle s'appelait Isabelle.
Moi, Stéphanie, je suis l'amie d'Anna. Je n'ai pas vraiment connu Isabeau, mais j'ai été impressionnée par ses funérailles flamboyantes. La liberté qui se dégageait dans le désordre joyeux de la foule, composée d'artistes bohèmes de Montmartre, de personnages originaux, de gueules cabossées par la vie dont elle s'était fait une famille et qui entonnait en chœur trois petites notes de musique. Et l'idée nous est venue de raconter son histoire, d'aller enregistrer les paroles de ceux qui l'ont connue pour continuer à faire entendre sa voix. Qui était vraiment cette femme née après-guerre et marquée par le souvenir de la Shoah? Comment elle a pris sa liberté au milieu des années 70 en s'affranchissant de tous les codes? Qu'est-ce qui l'a poussée à devenir chanteuse sur le tard? Quel a été son parcours pour vouloir à ce point rattraper le temps perdu? Comment elle est devenue une figure de son village montmartrois? On avait chacune envie d'en savoir plus, de percer le mystère de cette mère étrange pour Anna, de cette femme libre et originale pour moi. Une façon de lui adresser un dernier Bleibgesinnt, peut-être.
Marcher dans les pas d'Isabelle Isabeau, ça voulait dire se rendre dans son deuxième fief après Montmartre, l'île du Levant. C'est là que j'ai dispersé ses cendres, c'est donc là qu'elle repose pour toujours. C'est par là qu'il fallait commencer.
Je connais des îles pleines d'éléphants, sauvages et tranquilles, semblant triomphants. Je connais des îles, tout pays d'oiseaux.
Cette île, c'était sa terre promise, parce qu'on peut y vivre nu. Enfin, sur 5% du territoire, car le reste est une zone militaire interdite au public. Deux pionniers y ont créé le premier site naturiste français dans les années 30, Héliopolis, la Cité du Soleil, un petit paradis sans voiture au large de la ville de Hyères, en Méditerranée.
Isabelle y passait tous ses étés et les petites vacances, les fesses à l'air et la liberté en bandoulière. Elle y a rencontré une foule d'amis comme elle, libres et irrévérencieux, aimant le sexe et le libertinage, vivant d'amour et d'eau fraîche. Elle y donnait aussi des concerts sur la place du village, à la chapelle ou à la terrasse des cafés. Nous sommes venus découvrir son deuxième univers, un autre village perché sur Butte, une sorte de Montmartre méditerranéen plus dénudé. À peine arrivés sur cette île mouchoir de poche, tout le monde a les yeux braqués sur nous et sait, au bout de quelques minutes, qui nous sommes et pourquoi nous sommes là.
Enfin, l'île, c'est un bien grand mot pour ce petit bout de terre avec un port, un chemin en pente raide coiffé d'un village, une maison faisant poste et école à la fois et quelques terrasses pour voir et être vu. Au-delà, une minuscule plage à 20 minutes de marche par un chemin des douaniers et une nature préservée. Les cigales se foutent de savoir que l'été touche à sa fin, le soleil aussi. Nous sommes en septembre. Ici, pas de voiture, pas d'éclairage public. C'était bien le bout du monde décrit dans les dépliants touristiques. On y rencontre Thierry, le chef de la chorale de Lille, un ancien professeur de musique qui gère aujourd'hui un petit hôtel. Avec son compagnon, il a quitté la grisaille parisienne il y a quelques années pour s'inventer une nouvelle vie. On lui avait donné rendez-vous pour l'enregistrer, mais à l'heure dite, il n'est pas là. Il faut croire qu'au Levant, le temps est suspendu. On finit par le retrouver, quelques instants plus tard, sur la terrasse d'une villa jouant du violoncelle au coucher du soleil, dans le plus simple appareil.
En fait, tout a commencé avec les 90 ans du domaine d'Héliopolis. Héliopolis étant le domaine naturiste qui est sur l'île du Levant, il y avait différents artistes levantins qui avaient composé ou interprété des œuvres qui parlaient de l'île. Et donc, pour les 80 ans du domaine, on a chanté ces deux chansons d'Isabeau sur la place du village. Et donc, voilà, ça a été un beau moment et un beau souvenir.
Est-ce qu'elle était un peu connue sur l'île en tant que chanteuse ?
Ah oui, complètement. Ah oui, parce que, bon, bah d'abord, elle adorait l'île, donc elle venait régulièrement et elle avait à cœur de monter des programmes, des répertoires chansons de la Belle Époque ou des années folles. Et elle faisait partie vraiment des artistes levantins. Il y a les vacanciers aussi qui la connaissaient bien. Parce que quand il venait séjourner sur l'île, souvent, ils la croisaient, ils l'entendaient chanter. Et pour eux aussi, ça représentait une partie de l'île. Je crois qu'elle aimait avant tout la liberté. Et c'est vrai qu'au Levant, on a quand même une grande liberté. Le naturisme, je pense qu'elle y était aussi très attachée. C'est vraiment un lieu aussi où on fait beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent aussi séjourner et qui quelquefois tombent sous le charme de l'île et du coup ont envie aussi de se produire sur l'île, de monter un concert. Donc il y avait ce côté aussi un peu improvisé qui était très chouette. Sa voix était vraiment très particulière et unique en son genre, parce qu'elle avait ce côté diseuse, à la fois diseuse, parce que je crois que le texte était très important pour elle, et puis ce côté très direct, donc il y avait tout de suite une émotion qui passait. Et puis aussi ce qu'elle dégageait, parce que quand elle chantait, même quand elle chantait, elle souriait. Donc tout de suite elle rayonnait, quoi. Et ça, c'était communicatif.
Hein. Je connais des îles, Jamaïque, Cuba, pleines de musique pour faire la nuit.
Ces chansons, je connais des îles, mais aucune n'a le goût du vent, du ciel, de la lune, de l'île du Levant.
Mais aucune n'a le goût du vent, du ciel, de la lune, de l'île du Levant.
On a laissé Thierry à sa répétition pour retrouver Yann, un des plus fidèles amis d'Isabeau. Yann, un Hollandais libre avec son corps et pudique avec ses sentiments, nous attend, cul nu, à la Titoune, un cabanon avec pour horizon la mer, les cactus et l'île voisine de Port-Cros. Comme en plein été, l'air est saturé d'odeurs de pin et la mer scintillante nous éblouit. Robuste, le regard bleu azur, la tignasse léonine, il affiche un bronzage parfait et doit se ratatiner pour franchir la porte du cabanon. Ils nous racontent leur première rencontre.
Oui, c'était sur la terrasse du bazar sur l'île de la Vente. Elle avait une show l'après-midi. La chanson qui m'amusait beaucoup, c'était... Il est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand il rencontre la nuit. il est un mauvais garçon. Et je pensais que c'était pour moi. Je me sentais comme ça. Je sentais comme c'était pour moi. C'était joli. C'était toujours coquine, délurée, mais innocente. Innocente et joyeuse. Oui, j'ai visité l'île depuis 22 années et j'ai le grand, c'est une grande joie que je connais l'ancien génération qui ont commencé cette aventure. C'était une atmosphère avec un savoir-vivre unique et convivial. On sent les herbes. Les arbres, la mer, les sens sont très forts et vraiment, la force de la nature, c'est une force de la nature.
Et ma mère, qu'est-ce qu'elle aimait là-bas?
Les mêmes choses, mais elle était un peu plus coquine. Elle chantait « Je connais des îles », mais elle était une île. Elle était une île naturelle, ouais. Je connais des îles pleines d'éléphants, sauvages et tranquilles, sans blancs triomphantes. Je connais des îles aux arbres géantes, aux parfums subtils que battent l'océan. Mais aucune n'a le goût du vent, du ciel, de la lune, de l'île du Levant.
Enfin, on termine par Michel. Michel de Monico, une figure de l'île qui, à 86 ans, s'est construit une légende. Il descendrait des Valois ou, selon les jours, de Saint-Exupéry. Le fait est qu'il occupe une maison en ruine, jonchée de détritus, mais à l'emplacement stratégique, avec une vue imprenable et un beau terrain. Mi-clochard, mi-intello, on l'a tout de suite surnommé le clochard céleste, pour le mélange de crasse et de raffinement de sa pensée. Il nous accueille, le pantalon sur les chevilles, balayant d'un geste large le terrain vague qui lui tient lieu de jardin, une décharge où trônent quatre chaises déglinguées en plastique. Les gradins, la scène, mon théâtre.
Vous me prenez au dépourvu, parce que je n'ai rien préparé, je n'ai rien anticipé. Isabeau, c'est... Alors, quelqu'un qui ne la connaît pas, c'est une fille de Montmartre, de Paris, quoi. C'est un... Isabeau, d'ailleurs, elle a choisi, à tort ou à raison, pour certains de ses films et enregistrements, Isabeau de Paname. Isabeau de Paname. C'est une, j'allais dire une panaméenne, une maman froide, avec un accent très, 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 très spécial, très particulier, très, très parisien, toi.
Comme Isabeau et sa bande d'artistes au grand cœur, c'est un rêveur qui voit le monde tel qu'il n'est pas. On n'a pas pu résister à l'écouter réciter un poème d'Isabeau.
Ô Pierre Isabelle, tu ne viendras plus à ton école lorsque vous arrivez. Silencieuse et sombre, déjà, tu savais.
Tu sortais
de l'ombre, hein, c'est ça. Tu sortais de l'ombre. Tu ne parlais pas, jamais je n'ai su si c'était un choix, si tu aurais pu. Beaucoup de sourires d'humour et de, voilà, et d'ironie. Jusqu'au dernier jour où, soudain, ton cri, une plainte d'amour au cœur m'a saisi. À jamais tu restes dans mon panthéon de ces chats célestes veillant sur ma maison. Isabeau, juillet 2015.
Je connais des îles. Jamaïque, Cuba, pleine de musique pour faire la nouba. Je connais des îles pleines de senteurs, cannelle et vanille, piments et couleurs. Mais aucune n'a le goût du vent.
L'ancienne génération d'Héliopolis disparaît peu à peu et le souvenir d'Isabeau reste dans les cœurs et sur les terrasses de l'île. Pour combien de temps encore? Est-ce que son âme y flottera pour toujours ou va s'évaporer au gré du vent comme ses chansons? D'ailleurs, est-ce que l'âme d'une personne a une adresse? Est-ce qu'elle habite un lieu pour l'éternité? Pour poursuivre notre chemin sur les traces d'Isabeau, il faut commencer par aller à la rencontre de ses musiciens, ceux avec qui elle a débuté et a créé son personnage.
Bleibgesinnt!
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles et retrouvez-nous sur le compte Instagram Bleibgesinnt Podcast.